Chut! Qu'est-ce qui est à l'affût planqué sous le sable? Si j'étais l'un des prédateurs les plus dangereux au monde, je serais...
Il y a ce qu'on appelle la radula, qui est donc la dent des gastéropodes. Cette radula, elle a une forme très particulière chez les cônes. Elle a une forme d'aiguille hypodermique, mais réellement, hein, c'est-à-dire que c'est un tube creux par lequel passe le venin. Et parfois, chez certaines espèces, ça se termine par un harpon.
Derrière la férocité des conidés se cache la voix de Nicolas Pilandre. Si j'étais un naturaliste du 21e, j'étais un naturaliste, je serais...
Certaines espèces sont mortelles pour l'homme.
Nicolas Pilandre.
En fait, il y en a une qui est vraiment mortelle pour l'homme, qui s'appelle le cône géographe, que l'on peut trouver au bord de la plage, à marée basse. Potentiellement, dans tout l'Indo-Pacifique, vous pouvez trouver cette espèce. Si vous allez en vacances là-bas, je vous déconseille fortement de la ramasser. Beaucoup de gens qui se sont fait piquer, en fait, sont des touristes qui ont ramassé le coquillage et qui l'ont mis dans leur poche de maillot de bain parce qu'il était joli, mais en fait, ils n'ont pas vu que l'animal était encore à l'intérieur. Ils pensaient que la coquille était vide. Et ils se sont fait piquer.
Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce? Pour y répondre, vite, embarquons, avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Quatrième escale, les dents de la mer, la revanche des conidés.
Il y a un éventail de techniques et on ne les connaît certainement pas toutes parce qu'il y a énormément d'espèces à découvrir et même les espèces qu'on connaît déjà, on ne les a pas forcément observées en train de chasser, loin de là d'ailleurs. Oui, il y a un éventail de techniques de chasse absolument incroyable.
Position.
Pink Beach, île de Komodo.
Latitude.
8 degrés sud.
Longitude.
119 degrés est. Prédateur. Sous des dehors inoffensifs, ces escargots marins font partie des 10 espèces les plus venimeuses. Un conseil, la prochaine fois que vous observerez un beau coquillage sur la plage, évitez de le glisser dans votre maillot, sous peine de risquer une piqûre qui peut être mortelle. Leurs armes, la radula, une langue recouverte de centaines de dents et des venins complexes à partir desquels ils ont développé des stratégies de chasse extrêmement élaborées. La chasse est ouverte. Mais au fait, quelle est la différence entre un bon et un mauvais chasseur?
Alors, il y a plusieurs techniques de chasse. Il y en a deux principalement qui ont été décrites dans la littérature. Donc, il y en a une qui est justement la technique de chasse du cône géographe et d'autres espèces proches de ce cône. En fait, ils vont pas du tout chasser à l'affût, c'est-à-dire qu'ils vont se balader sur le fond. Et quand ils croisent une proie, alors eux, ils mangent des poissons, en fait, ils vont dévaginer leur bouche. Donc, en fait, ils ont une espèce de voile qui va sortir de la coquille en forme d'entonnoir et qui va venir entourer complètement le poisson. Et donc on appelle cette technique la technique du filet de pêche. Donc c'est cette espèce d'entonnoir qui est un espèce de vélum en fait, qui est la bouche de l'animal, qui va venir englober le poisson. Et une fois que le poisson est à l'intérieur de ce filet, il va être piqué avec effectivement un espèce de ce qu'on appelle un proboscis, donc c'est une espèce d'extension en forme de tube assez fin. Et au bout, il y a ce qu'on appelle la radula, qui est donc la dent des gastéropodes. Cette radula, elle a une forme très particulière chez les cônes. Elle a une forme d'aiguille hypodermique, mais réellement, hein, c'est-à-dire que c'est un tube creux par lequel passe le venin. Et parfois, chez certaines espèces, ça se termine par un harpon. Et donc, on pense qu'une fois que le poisson est enfermé dans ce filet, il est piqué, et donc paralysé par le cône. Alors, ce qui est très étonnant quand on voit les images, il y en a sur le net, c'est que le poisson, il reste devant le cône et il s'enfuit pas. Et en fait, on a trouvé la solution il y a quelques années, c'est qu'en fait, le cône va relarguer des toxines dans l'eau, paralysantes, notamment un dérivé de l'insuline, qui va en fait créer un choc chez le poisson qui sera complètement paralysé. Donc le poisson ne peut pas s'échapper et voit le cône arriver avec son voile qui vient l'englober, donc il voit littéralement la mort arriver. Et une fois que le cône l'a englobé dans son entonnoir, c'est fini.
Englobé, paralysé.
Et après digéré en quelques heures.
En quelques heures.
En quelques heures. On a déjà fait un test, on a donné un poisson à manger à un cône, parce qu'on voulait savoir en fait dans quelle zone du tractus digestif le poisson était digéré. Et en fait, au bout de 8 heures, on a réussi à retrouver une petite vertèbre dorsale du poisson. Tout le reste avait été complètement digéré. Donc c'est un processus extrêmement rapide.
C'est les dents de la mer, la nouvelle version des dents de la mer.
Oui, alors le problème, c'est que ça ferait un film assez lent. Bien évidemment, ça reste des mollusques, hein. Mais les images sont extrêmement intéressantes. Alors, il y a une autre technique de chasse qui est peut-être même encore plus impressionnante parce que beaucoup plus rapide, c'est une chasse à l'affût. Cette fois-ci, le cône, pour d'autres espèces de cônes, le cône est enterré dans le sable.
Donc il se planque.
Il se planque dans le sable, voilà, complètement. Et il y a juste ce proboscis dont je parlais, cette espèce de petit tube avec la radula au bout, qui va sortir du sable. Et quand il y a un poisson qui passe ou une autre proie, parce que d'autres se nourrissent d'autres mollusques ou de vers, quand il y a une proie qui va passer, il va piquer. Et en fait, le harpon va lui permettre de garder le contact avec la proie. Donc en fait, le poisson est réellement harponné. Le venin passe dans le poisson, il est paralysé. Et ensuite, le cône n'a plus qu'à tirer pour ramener le poisson dans sa bouche, qui sera ensuite complètement englobé et digéré. Donc voilà, ça c'est une chasse à l'affût, avec des images qui sont assez impressionnantes, où on voit que le poisson, pour certaines espèces, en une demi-seconde, il est complètement paralysé. Donc c'est un poison extrêmement rapide, efficace, puissant. C'est un venin très efficace. Les autres groupes de néogastéropodes prédateurs sont beaucoup moins connus. Mais on sait effectivement que certaines espèces, et d'ailleurs plusieurs groupes indépendamment, ont acquis au cours de l'évolution la capacité de pomper le sang de leur proie. Donc ils vont, pareil, toujours utiliser cette espèce de proboscis qui va s'allonger énormément, qui peut faire plusieurs fois la taille de l'animal, et qui va venir se fixer, par exemple, dans une branchie de poisson pour aspirer le sang. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu des anesthésiants qui sont produits pour que le poisson ne sente pas qu'il a été piqué, des anticoagulants pour que le sang circule bien dans le proboscis du mollusque, et ils pompent le sang comme ça.
Comme des vampires.
Ensuite, ils se détachent, ils repartent, et le poisson n'a rien senti. Alors, il sent certainement un peu plus fatigué qu'avant, mais en tout cas, le poisson n'est pas tué. Donc on a d'autres techniques, hein. Il y a des groupes, par exemple, qui vont très rapidement. Alors pareil, c'est des images assez impressionnantes pour un mollusque, on a l'impression que ça se déplace très rapidement. Mais on a des images de certains groupes de mollusques, comme les harpes, le groupe des harpidés, la famille des harpidés, où en fait la harpe va sauter littéralement sur le crabe, qui est sa proie, va l'enfermer dans son pied, elle est capable d'étendre son pied de plusieurs fois la taille de sa coquille, elle va former une poche avec son pied où elle va enfermer le crabe, et le crabe va se faire digérer à l'intérieur du pied. Et donc on suspecte que dans cette poche formée par le pied, le mollusque est capable de produire des anesthésiants également. Ça, pour l'instant, on n'en a pas encore la preuve.
Pour que sa proie reste tranquille
et qu'il puisse faire digérer tranquillement sans rien dire. Donc ça, on n'en a pas la preuve et on a actuellement dans l'équipe un projet de recherche où on espère justement pouvoir caractériser un petit peu les toxines potentielles qui sont utilisées par ces harpidés.
Et au niveau des comportements des cônes, est-ce qu'ils sont grégaires? Est-ce qu'ils sont solitaires? Comment ça se passe? Vous connaissez un peu?
Alors, de ce qu'on sait, ils sont plutôt solitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve rarement en groupe. Bien évidemment, il doit y avoir des exceptions quand ils se réunissent pour la reproduction, parce que c'est des organismes avec sexe séparé et donc fécondation interne. Donc ils se regroupent à ces moments-là. Il y a une exception. On a observé une espèce de cône qui s'appelle Conus californicus. Comme son nom l'indique, c'est une espèce qui vit sur les côtes californiennes. En fait, c'est une espèce qui a l'air d'être plutôt nécrophage, ou en tout cas qui va s'attaquer à des proies qui sont déjà moribondes. Et on a observé plusieurs spécimens de cette espèce-là qui se regroupent pour attaquer la même proie. C'est-à-dire qu'ils vont successivement piquer et injecter du venin plusieurs fois chacun dans la proie jusqu'à la tuer, et ensuite ils vont tous se nourrir de cette proie-là. L'avantage, c'est qu'ils vont être capables de s'attaquer à une proie qui est beaucoup plus grosse qu'eux. Donc un cône qui fait quelques centimètres de long, ils peuvent s'attaquer à un poisson de 10 ou 20 centimètres. Ou à des crustacés, ou à d'autres groupes aussi d'ailleurs.
Extrêmement vicieux, hein. C'est très, très au point leur technique.
Je vous disais, il y a un éventail de techniques et on ne les connaît certainement pas toutes parce qu'il y a énormément d'espèces à découvrir et même les espèces qu'on connaît déjà, on ne les a pas forcément observées en train de chasser, loin de là d'ailleurs. Je disais tout à l'heure que certaines espèces sont mortelles pour l'homme. En fait, il y en a une qui est vraiment mortelle pour l'homme, qui s'appelle le cône géographe.
Il y a combien de morts ?
Il y a très peu de morts qui ont été recensées. Hein. C'est entre 40 et 50, pas par an, hein, au total. Hein. Comparé aux 100, 150 000 morts par an à cause des serpents, c'est bien évidemment négligeable. Le problème, c'est que si vous vous faites piquer par le congéographe, vous avez une chance sur deux d'y rester. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'antivenin. Aucune boîte pharmaceutique ne va développer un antivenin pour 3 piqûres par an. Donc il n'y a pas d'antivenin. Donc voilà, il faut rester prudent par rapport à ça. C'est une espèce mortelle. Les autres espèces de cônes, ça va d'une piqûre très douloureuse avec des effets secondaires, paralysie partielle, grande fatigue, etc. pendant plusieurs semaines. Mais ça n'entraîne pas la mort pour les autres espèces, jusqu'à des espèces qui vont vous faire une petite piqûre avec une douleur comme une piqûre d'abeille, quoi.
À suivre, Le Nouveau Monde, sur les pistes du vivant, en compagnie du systématicien Nicolas Puylandre. Prochaine escale, la révolution ADN et les grandes découvertes du XXIe siècle. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.